cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 4 mai 1988.
Petite question matérielle. Il y a un changement au point de vue des cours. À 9h30, ce sera la théologie fondamentale à la place de l'éthique. Et l'éthique aura lieu demain à 9h30. J'espère que ça ne vous dérange pas beaucoup. Le tout, c'est de le savoir pour ne pas faire des courses inutiles jusqu'ici. Pour ceux qui n'assistent pas aux cours de théologie fondamentale. Vous avez dit à propos de l'un qu'il est dans l'induction, ce qui permet le dépassement vers la substance, qui regarde la question de l'être. À quelle question et à quelle nécessité de notre intelligence répond la recherche de l'un? C'est pour connaître parfaitement l'être. Si l'un est l'acolyte de l'être, il est important de connaître l'acolyte. Vous savez bien, il se manifeste, l'acolyte. Toujours, il se montre. C'est la manifestation de l'être, l'un. Je ne dis pas que c'est la gloire, mais c'est la manifestation. C'est la condition sine qua non de la gloire. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de gloire. Et c'est la propriété, condition sine qua non. C'est pour ça que l'intelligence cherche l'un, de façon très très forte. Elle cherche plus profondément l'être que l'un, mais partout où elle cherche l'être, elle cherche l'un. Propriété, manifestation, toujours. Vous dites que la quantité est une forme. Je ne dis pas une forme de divisibilité, mais la forme divisibilité. C'est la divisibilité. C'est-à-dire, c'est le divisible. Mais n'est-ce pas? Et n'est-ce pas saisi? Alors, la quantité comme relative à notre intelligence qui domine en mesurant. Si on veut saisir la quantité relativement à la matière qu'elle détermine, ne doit-on pas dire qu'elle est extension? Ah oui, je vois. Et dire que la quantité est divisible. Oui, faites attention. Je vois votre question. C'est un peu la question de l'existence de la quantité et ce qu'elle est. Quelle est l'acuité de la quantité? Vous comprenez que l'acuité de la quantité, elle est relative à l'intelligence. C'est comme quand je dis l'être est intelligible. Ça ne veut pas dire que c'est relatif et que c'est l'aspect subjectif. Non, je cherche à connaître qu'est-ce que c'est que la quantité. Et je dis que c'est le divisible. C'est la forme divisible. Exactement, c'est la forme divisible. Et qu'au plan existentiel, elle est plutôt extension. Ça oui, je croirais bien qu'on peut dire l'un et l'autre comme ça, vous voyez ? Pas commode de savoir qu'est-ce qui est premier. Posez-vous la question. C'est un petit exercice intellectuel très bon, ça, pour le matin, au petit lever du soleil, n'est-ce pas? Alors, une forme divisible. Et puis, extension. Je dirais, les deux se tiennent. C'est très net. Alors, qu'est-ce qui est premier, métaphysiquement parlant? C'est toujours la même question, vous voyez, appréhension, jugement. Très curieux, hein ? On trouve tout le temps ça. L'appréhension, cuidité, jugement, jugement d'existence. En gros, en très gros, hein, comprenez bien, essence, existence. Saint Thomas fait le parallélisme, alors on peut le faire. Alors, je dirais assez facilement, personnellement, il me semble, jusque nouvel ordre, si vous me donnez une très grande lumière, que vous voyez, vous avez une analogie comme ça. La forme divisible est à l'extension ce que l'acuité est au jugement d'existence. L'extension est plus proche de la quantité existante. Et la formalisation, la connaissance première de la quantité, de la quantité de la quantité, c'est la forme divisible. Et c'est plus intelligible, la forme intelligible, que l'extension, pour moi. Je ne sais pas pour vous. Ça se tient, c'est évident. Toute extension implique le divisible. Tandis que pouvons-nous dire que tout divisible implique l'extension ? Non. C'est le divisible quantitatif. C'est le divisible lié à la matière qu'est l'extension. Vous voyez ? Donc c'est lié blanc-blancheur, ici. Faites attention, hein. C'est plus concret, l'extension. C'est plus lié à la matière. C'est pour ça que je dirais tout de suite, la forme divisible liée à la matière implique l'extension. Mais la forme, la quantité, si je la saisis en disant ce qu'elle est, qu'est-ce que c'est la forme divisible ? Réfléchissez, hein. Puis si vous n'êtes pas d'accord, essayez de le justifier. Parce que c'est comme ça. On peut très bien. C'est ça qui est très délicat. Parce qu'on a peu spéculé sur la quantité, vous savez. Très peu. On ne spécule pas beaucoup. C'est difficile. Alors, continuons ces quelques petites réflexions sur ce que c'est que la quantité, et puis continuez. Je crois bien. Et si vous ne si vous sentez pas d'accord, essayez de réfléchir là-dessus. Surtout les matheux, les scientifiques, qui ont particulièrement en connaturalité avec la matière. Pas les artistes. Les artistes, c'est la qualité. Et c'est vrai, ça, c'est... C'est deux formes complémentaires constantes, hein. Sensible propre, sensible commun. Le scientifique a la tentation de rejeter les sensibles propres. Parce qu'ils ne sont pas mesurables. Alors si le scientifique est artiste, ce qui arrive assez facilement comme complémentarité, prenez, il a deux cordes à son arc. Et heureusement... Alors il appuie sur l'arc, sur la corde sensible d'artiste. Alors c'est sensible propre. Quand il est fatigué, c'est le scientifique qui reprend. Et au petit matin, c'est l'artiste. C'est comprendre un peu ça, vous voyez, fameuse querelle de la quantité et de la qualité. Est-ce qu'on aime avoir beaucoup de vin ou du très bon vin, une bonne bouteille, ou bien avoir un tonneau de piquette? Ça varie, ça. Les gourmets, les gourmands, c'est quand même un petit peu différent. faut pas dire que les scientifiques sont les gourmands, venez. Mais l'artiste a quand même ce petit quelque chose, cette petite étincelle de lumière qui est très particulière. Alors évidemment, l'homme a les deux, c'est sûr. Mais c'est toujours très intéressant de trouver dans un homme mathématicien l'artiste. Souvent, c'est complémentaire. Et quand le matheux est artiste, alors ça va. Quand il n'est pas du tout, ça arrive. C'est dangereux. C'est dangereux. J'ai toujours peur d'un scientifique qui n'a pas un pouce de qualité. Parce que ça peut aller très loin. La science pour la science. L'art pour l'art, ça peut aller très loin aussi. Mais ce n'est pas la même chose. C'est curieux. Vous voyez, la qualité ne conduit pas à l'infini, tandis que la quantité conduit à l'infini. Ça, c'est sûr. La qualité ne conduit pas à la dialectique, tandis que la quantité conduit à la dialectique. Il faut sentir ça et puis essayer de le justifier. Et je crois qu'on le justifie par là. Alors, nous essayons de reprendre un tout petit peu et réfléchir. On ne va pas aller trop loin parce que il faut encore voir la relation. Et la relation, c'est une chose très importante. Cette forme indifférente est une forme de divisibilité. Donc une forme divisible dont les parties sont immanentes au tout. Et ces parties peuvent toujours être divisées de nouveau. Aucune partie quantifiée n'échappe à la possibilité d'être divisée. On peut toujours y ajouter et y retrancher. C'est pourquoi on peut dire que ce qui fait que la partie est partie, c'est vraiment sa capacité de division et son aptitude à être jointe à un autre. La quantité est proprement une forme de divisibilité, donc une forme divisible, c'est encore mieux qu'une forme de divisibilité qui rend les parties dimensives. Vous voyez, voilà. Capables de dimension, qui leur donne une extension. La dimension et l'extension, ça se tient. Or, l'extension implique deux choses. Une certaine juxtaposition des parties, d'où une extériorité des parties les unes par rapport aux autres, et une certaine possibilité de division. Si donc la quantité détermine le sujet matériel qu'elle affecte, elle apporte en même temps une nouvelle indétermination d'un autre ordre évidemment. Donc la quantité détermine en apportant le divisible et l'extension. Et en même temps, elle apporte une nouvelle indétermination. Mais comme c'est le lieu de la dialectique, parce qu'il y a les deux qui sont dedans, tout le temps, dans le même tout. Le même tout, c'est la quantité. Donc, divisible, extension, déterminant, c'est une forme, elle détermine. Mais c'est une forme divisible qui apporte une indétermination. Donc c'est la forme qui apporte l'indétermination. On peut donc dire qu'elle détermine la matière et lui donne une nouvelle capacité d'être déterminée. Elle détermine et elle appelle une nouvelle détermination. La quantité est ainsi une forme potentielle secondaire dans le prolongement de la matière, mais distincte d'elle. C'est une capacité non radicale, mais relative au contact qu'elle permet. S'il n'y avait pas de quantité, il n'y aurait pas de contact. Permet le contact, condition sine qua non pour le contact. Et c'est vrai ça, Mais les gens trop maigres, c'est très difficile de les contacter. Psychologiquement, vous voyez, c'est plus difficile. Ils sont raides, que voulez-vous. Raides comme un poteau. C'est un parapluie ambulant. Et ça se voit, ça. Et alors, ceux qui sont tout ronds, c'est pas très bien. Plus facile de les contacter. Il y a quelque chose comme ça, psychologiquement. Une certaine raideur de celui qui... Vous voyez, une fine pointe, c'est... Et là, ils attaquent un peu tout le temps. On a un petit peu peur d'eux, comme une flèche. C'est une capacité non radicale, mais relative au contact. Grâce à la quantité, une réalité matérielle peut subir l'influence d'une autre réalité matérielle, exercer elle-même une influence sur une autre. J'allais dire aussi, grâce à la quantité, une réalité peut subir l'influence d'un être qualitatif. Il y a les deux. C'est pour ça que ça, c'est très important. Vous voyez, un traité des communications, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de communication. Le partage, partage, puisque c'est tarte à la crème. Alors, quelle est la condition du partage? La quantité. Alors, c'est très curieux, si vous êtes trop sensibilisé au partage, petit à petit, vous ne serez plus sensibilisé qu'à la quantité. Regardez autour de vous, vous allez tout de suite sentir ça. Il faut sentir ces choses-là. Et puis comprendre le danger. Et l'œcuménisme poussé à l'extrême aboutirait uniquement partie et tout à un monde quantitatif. L'aspect quantitatif au niveau, si vous voulez, religieux, au niveau croyant. Parce qu'on regarde le fondement, ce par quoi les contacts sont possibles. Si la quantité permet le contact entre les réalités physiques, elle conditionne leur exercice, puisqu'elle est une détermination qui se prend du côté de la matière, à la différence de la forme qui spécifie. Et la quantité conditionne la forme qualitative spécifique. Il faudrait mettre à la différence de la forme qualitative. Puisqu'on a fait la forme quantitative, c'est la forme qualitative qui spécifie. C'est la qualité qui spécifie. Étant une forme potentielle secondaire, la quantité est une forme qui réclame un terme. La quantité demande d'être terminée. En elle-même, elle est infinie en puissance. Un infini formel en puissance, c'est-à-dire un infini qui peut être formalisé. Oui, est-ce qu'on peut dire un infini formel en puissance ou est-ce que l'infini... Oui, c'est un infini informel. La quantité est un infini informel. Parce qu'un infini formel en puissance, c'est un infini informel. Et ça dit encore mieux la chose. En elle-même, elle est un infini en puissance, c'est-à-dire un infini qui peut être formalisé. Tandis que la matière qui est aussi infinie en puissance, ne peut être formalisée et séparée. Ça, c'est très curieux. Et c'est très important, ça. Vous ne pouvez pas formaliser la matière. C'est une formaliser la quantité. Et vous voyez, parce que elle est justement un infini informel, elle appelle la formalisation pour être infinie en acte. Tandis que la matière, qui est aussi infinie en puissance, ne peut être formalisée et séparée, car en elle-même et par elle-même, elle est inconnaissable. elle ne peut être saisie que dans un rapport avec la forme-substance. Je n'ai qu'une connaissance analogique de la matière. Tandis que j'ai une certaine connaissance directe de la quantité, par les sensibles propres. Je n'ai pas de connaissance directe de la matière. Ça va très loin, vous savez ça. Ça montre que quand un technicien construit un barrage, donc nécessairement, il est en contact avec la matière, il y a toujours quelque chose qui lui échappe. Les calculs étant poussés à l'extrême, il y aura toujours quelque chose qui lui échappe. Donc on ne pourra jamais condamner quelqu'un. Je parle, vous voyez, au moment où le barrage de Fréjus a sauté, n'est-ce pas ? Il y a des grosses discussions à ce moment-là. Mais c'était très intéressant de suivre ces discussions au plan philosophique. Les techniciens disaient, mais on aurait dû. C'est comme, vous savez, les éclatements de vitres des immeubles quand il fait trop chaud, par exemple. Il y a toujours un facteur qui échappe dans la quantité, dans la matière. Il ne peut pas être formalisé. Ça va très loin, ça. Je ne peux pas épuiser l'intelligibilité du monde matériel. Et par le fait même, je ne peux pas épuiser l'intelligibilité du monde quantifié. Puisque pour le connaître, il faut le diviser. Je peux le diviser à l'infini. Mais techniquement, il y a une limite. De fait, il y a une limite. À cause des instruments. Qui grossissent, mais à un moment donné. Et donc, il y aura toujours quelque chose qui échappera. Ainsi, à la différence de la qualité, qui en elle-même est forme et acte, qui n'a pas besoin de formalisation, elle a une certaine formalisation, par l'art, mais qui en réalité n'est pas une formalisation. C'est pour ça que l'art abstrait est une contradiction. Quand on parle de l'art abstrait, c'est contradictoire. L'art n'est jamais abstrait. Mais on voit ce qu'on veut dire, vous voyez. La qualité ne peut pas être formalisée. Cependant, l'art formalise, met en lumière. Mais en vedette. C'est ça que fait l'art. L'art met en pleine lumière, vous voyez la caricature, met en pleine lumière une qualité. La quantité, dans sa nature même, réclame la formalisation, car elle est une forme imparfaite. Elle demeure ordonnée à une autre forme. On pourrait dire qu'elle demeure en appétit de forme. Elle est donc susceptible d'être formalisée par l'intelligence humaine qui peut l'actuer et lui donner toute sa signification. C'est pour ça que la quantité est tellement en appétit de l'intelligence. Un monde matériel appelle l'intelligence. Parce que par lui-même, il est absurde. Elle demande d'être formalisée. Et c'est peut-être pour ça, vous voyez, que l'intelligence humaine aime le domaine quantitatif. Parce que là, l'intelligence humaine se trouve utile. C'est agréable d'être utile, quoi. Et que l'intelligence se trouve utile dans le domaine de la quantité, parce que la quantité n'est formalisée que par l'intelligence. Elle devient pleinement intelligible par l'intelligence. Alors c'est agréable. Au moins, on est utile à quelque chose. Et c'est, je crois, cette attraction, alors. Vous voyez, tandis que la qualité, non. La qualité existe. Elle est elle-même. L'intelligence ne lui apporte rien. Elle s'impose à moi. C'est en ça qu'elle conduit à la contemplation. C'est que la quantité ne conduit pas à la contemplation. La quantité conduit au mécano. Au fait chéré. À la fabrication. C'est un appel vers ça, constant. Elle crie vers ça. L'intelligence humaine, du reste, ne peut actuer qu'une puissance accidentelle. Elle ne peut actuer la matière première, puisque celle-ci ne peut être actuée que par une forme-substance, que par une substance-forme. Ça aussi, c'est très curieux. Ça, c'est une chose très, très curieuse à voir, hein, et à réfléchir là-dessus. Vous voyez, cette forme divisible peut être actuée par l'intelligence, tandis que la matière, pure puissance, ne peut être actuée que par une substance forme, que par une nature forme. Pourquoi ? Parce que cette matière, pure puissance, est substantielle, elle est fondamentale. Tandis que la forme divisible peut être actuée par l'intelligence, peut être actuée par la forme intentionnelle. Tandis que la matière peut être actuée par la substance. Ah, c'est curieux, ça. Et ça va très loin, ça. Parce que ça montre justement que la puissance au niveau substance demande l'acte substance, la forme substance. Il y a une ordination entre les deux. Tandis que la forme divisible peut être actuée par une forme intentionnelle. Ça vous donne à réfléchir. Hein. Comme dirait Heidegger, ça donne à penser. Et c'est très curieux, le domaine de la quantité à ce point de vue-là est très intéressant. Il faut creuser ça. Et pour certains, je dis bien pour certains, qui peut-être sont déjà formés par le point de vue scientifique, la réflexion sur la quantité est une porte vers la métaphysique. Et les artistes sont plus sensibles à la qualité, c'est par la qualité qu'ils entrent en métaphysique. La connaissance scientifique est beaucoup plus habituée au raisonnement quantitatif. C'est par la quantité, la réflexion sur la quantité, qu'ils entrent en métaphysique, parce qu'ils voient la limite de cette forme divisible et se heurtent à la matière. Et la matière, alors elle, tout de suite, dépasse le domaine de l'intentionnalité. Parce qu'elle est fondamentale. Alors, il y a quelque chose à voir maintenant, j'irai très vite. C'est les diverses espèces de quantités. On les voit au niveau prédicament, il faut les voir au niveau métaphysique. Étant donné le caractère potentiel de la forme quantité, il est nécessaire de considérer ces espèces pour mieux saisir ce qu'elle est. La notion générique de quantité étant par elle-même peu intelligible. De fait, nous pouvons distinguer deux types principaux de quantité, la grandeur et le nombre. Et je crois qu'on vient toujours à la grandeur et au nombre. Vous voyez, l'extension, c'est du côté de la grandeur. Et le nombre est du côté beaucoup plus du divisible. C'est très curieux, du reste, là. Ces deux espèces de quantités sont si caractéristiques et si diverses qu'elles semblent souvent irréductibles l'une à l'autre. Elles le sont, du reste, sauf pour le métaphysicien. La grandeur, quantité continue, implique la position, dit Aristote, tandis que le nombre, quantité discrète, s'en abstrait. Le nombre est plus abstrait que la quantité, que la grandeur. Oui, c'est pour ça que vous avez quelque chose d'analogue à ça. C'est comme ça que je le mettrais. Alors, la grandeur implique une position. Position dans l'espace. Toujours. La notion d'espace, du raisin. La notion kantienne d'espace. Qui transforme le point de vue du lieu d'Aristote. Et le nombre qui est lié au temps. Le temps est un certain nombre. Le temps n'est pas une grandeur, mais il est au temps, le nombre. Pourquoi ? Parce que c'est la mesure. Alors ici, sans position, le nombre n'a pas de position. Le nombre, quand il est discrète, donc fait abstraction de la position, il n'implique que l'ordre. Le nombre fait appel à l'ordre. Et la grandeur ne fait pas directement appel à l'ordre. Ces deux types de quantités correspondent donc à deux interrogations différentes. Quelle grandeur ceci a-t-il ? Quelles sont ses dimensions ? Combien y en a-t-il ? Et quel est leur nombre ? Donc en latin, vous avez le quantum et le quot. Et le nombre. Alors, la grandeur, la quantité continue donne à la réalité physique son extension, son étendue, ses diverses dimensions avec leur position originale. La forme quantitative selon le continu n'est-elle pas la structure propre de l'être matériel comme tel ? La structure. Le structuralisme est fondé là-dessus. La structure de l'être matériel ne s'explique-t-elle pas en dimension et position ? Voilà la base de l'organisation de l'univers. Cette forme quantitative, en effet, donne à l'être matériel des parties extérieures, les unes aux autres. Juxtaposés, sans aucune pénétration ni compréhension, mais capables d'être situés l'une par rapport aux autres, capables d'être ordonnés entre elles, ayant leur position. En réalisant l'extériorité, cette forme, tu continues, permet par le fait même la contraction, la densité, le poids, l'opacité, la résistance et leur contraire. Certes, les phénomènes caractéristiques de l'être matériel impliquent d'autres déterminations que cette seule quantité continue. Mais tout se réalise en elle. Elle est fondamentale pour l'être physique. Et elle a quelque chose qui est très important pour nous à bien saisir, parce que c'est l'ordre fondamental de l'univers. C'est par les parties et le tout. Et les parties et le tout se font justement sur ce point de vue de cette forme-là. Donc la quantité, et surtout cette quantité continue, du point de vue métaphysique, si le continu est un accident, il est un accident fondamental. Donc toujours cette forme fondamentale qui structure. C'est la base, si vous voulez, quand on parle d'une base, c'est la base. C'est pas la matière qui est une base, c'est la quantité. Puisque c'est elle qui permet les échanges du continu et de la partie. C'est la forme, donc cette forme continue, qui rend l'être matériel capable d'être sujet du devenir, capable de recevoir l'acte du devenir. C'est ce qui permet l'évolution, condition sine qua non, du devenir et du mouvement. On voit comment le continu possède en lui certains aspects de la causalité matérielle. Alors là, ce serait très intéressant à voir. Comment la causalité matérielle se prolonge dans le continu. La causalité matérielle radicale, c'est la matière. Mais la causalité matérielle va se manifester à travers le continu. En effet, la causalité matérielle est une causalité de réceptivité, d'enveloppement, car elle reçoit en gardant, en enveloppant, telle une causalité maternelle. Toujours le parallélisme entre les deux. Or, précisément, le continu n'est-il pas capable d'exercer la fonction de réceptivité en enveloppant son indétermination radicale l'ouvrant à l'infini et lui permettant d'être toujours capable de recevoir. Il y a un lien entre la réceptivité et le continu. Très curieux, ça. Oui. Le continu, c'est cette forme, oui, l'extension. Le continu est lié à l'extension. Alors je vous disais, c'est pour ça que je passais, vous voyez. On passe le divisible, l'extension, le continu, qui est la grandeur. Le continu et la grandeur se tiennent, vous voyez. La formalisation divisible, l'extension qui relie avec le jugement d'existence et la matière. Le continu est lié toujours à la matière, au sujet matériel. C'est pour ça que le continu est sujet du devenir. Mais si vous voulez avoir l'intelligibilité du continu, passez par l'extension et passez par le divisible. Vous voyez ? En lui-même, le continu, c'est toujours une capacité de division. Et c'est toujours lié à la partie au tout. Alors, en définitive, et c'est ça qui est très curieux au plan de vue métaphysique, c'est que le continu manifeste pour nous la causalité matérielle. Le continu a quelque chose d'enveloppant, vous voyez, de maternel, Vous vous enveloppez d'une couverture. Vous voyez bien, c'est le continu. Il faut avoir le sens du continu. Le discontinu est fatigant et le continu est reposant. Parce que le discontinu fragmente, coupe. Le continu donne certaines sécurités. Très curieux. Politiquement, vous voyez, l'aspect d'être conservateur, c'est le continu. L'aspect révolutionnaire, c'est pas du tout le continu, ce serait beaucoup plus le nombre. C'est la coupure, la division, à partir de les oppositions. Le continu est reposant. Ça a envie de vous endormir. Oui. Alors, au contraire, n'est-ce pas, La quantité discrète, ce qu'on appelle la quantité discrète, le nombre. Le nombre est au-delà de toute position. Et le nombre fait aboutir à l'un numérique. Et c'est l'indivisible dans la quantité. Et l'un mesure. Et c'est dans ce sens-là que vous voyez comment la quantité va impliquer en elle-même une certaine mesure. Alors, ce serait un problème qui serait très intéressant à noter. Les rapports de la quantité et de la substance, parmi les accidents qui déterminent la substance sujet, donc le pos, formant avec ce sujet un tout et lui donnant des parties, la quantité joue un rôle primordial. C'est l'accident le plus matériel, certes, mais c'est aussi le plus fondamental. Et toujours les deux, la base. En effet, les substances individuelles et matérielles, avant d'être quantifiées telles ou telles, avant d'être en relation avec d'autres, avant, selon leur génétique, doivent être quantifiés. C'est ce qui permet les contacts, ce qui permet la juxtaposition. Car si la substance en elle-même est indivisible, les réalités physiques sont mesurables et divisibles. On peut les diviser, les analyser. On peut réaliser des synthèses nouvelles, des désagrégations de plus en plus profondes qui semblent toucher leurs structures les plus intimes. Désagréger l'atome, ça se fait, la désagrégation se fait par la quantité. C'est la quantité qui permet la désagrégation. C'est le champ de la désagrégation, puisque c'est le champ du divisible à l'infini. C'est pour ça que ça joue un rôle si important. Si vous voulez penser ce que c'est que la désagrégation de l'atome, c'est par la quantité. La substance comme telle n'implique pas la différenciation des individus dans une même espèce. Cette différenciation individuelle vient de la quantité, avec ses dimensions. Ce que saint Thomas appelait la materia signata. Or, cette materia signata implique une quantité capable de dimension, capable d'être mesurée. Or, la materia signata individualise et donne une position. Mais par rapport à la personne, la materia signata individualise la personne. Et c'est très vrai que l'individuation est liée à tout domaine de la quantité. Alors, ce que la grandeur et le nombre ont de commun, c'est de donner aux substances matérielles et individuelles des mesures. Du point de vue de la philosophie première, il faut déterminer le lien spécial qui existe entre tel accident et la substance, la quantité selon l'ordre matériel, ce qui est intelligible en premier lieu. Eh bien, la quantité apporte à la substance la mesure. De ce point de vue-là, on comprend comment on peut l'appeler mesure de la substance. C'est ce que dit saint Thomas. La quantité mesure la substance. Alors vous voyez, c'est très délicat à bien comprendre. Elle mesure la substance individuelle matérielle. Et elle les mesure par l'un. La mesure, c'est toujours ce qui permet de connaître le divisible. Et l'indivisible, c'est ce qui n'est plus divisible. Au-delà du divisible, c'est donc l'un qui va mesurer. Et dans l'ordre de continu, ce sont des mesures conventionnelles qui mesurent. La seule mesure réelle, c'est l'un. Toutes les autres sont conventionnelles. Même le modulor est une mesure conventionnelle, le modulor de Le Corbusier. C'est une mesure conventionnelle, oui. Le comment. La substance comme principe n'est pas mesurable. Mais la substance individualisée, la substance réalisée dans le monde physique est mesurable. Et c'est la quantité qui la mesure. Vous voyez ? C'est dans ce sens qu'elle est mesure de la quantité. Alors, mesure de la substance. C'est pour ça que quand je dis elle est mesure de la substance, attention, elle est mesure de la substance individualisée concrète.